contre toute attente. Contre toute attente, une émission présentée encore aujourd'hui par Francis, heureux de vous retrouver pour la suite d'une passionnante conversation entamée avec André Comte-Sponville. André Comte-Sponville a été souvent l'invité de Contre toute attente et en particulier la dernière fois. Et nous espérons que vous n'avez pas raté ce rendez-vous parce que les propos de ce jour en sont la suite. André Comte-Sponville, c'est vrai que nous l'aimons bien à cause de sa clarté et à cause des aspects chaleureux de sa pensée. Il n'a pas toujours bonne presse, peut-être parce qu'il fait preuve d'un bon sens presque terrien, peu prisé des intellectuels en chambre, et aussi en raison de son côté sympathique qui s'exprime peut-être par son éthique d'inspiration chrétienne. Dans « Actualité des religions » de novembre 2000, Comte-Sponville ne craignait pas de déclarer, je cite, « Le message moral des évangiles me convient parfaitement. Mais, ajoutait-il, l'histoire de Jésus pour moi s'arrête au Golgotha. Je ne crois pas qu'il est ressuscité. » Fin de citation. Eh bien, voici résumé en quelques phrases la tonalité du temps que nous allons passer avec André Comte-Sponville en personne.
Laissons courir les arbres sous le toit de feuillage. Laissons les goélands sous le vent chaud du large. Laissons les océans caresser nos visages. Laissons nos éléphants la blancheur de l'ivoire. Aux hommes des forêts le temps de leur histoire. Aux glaciers de Falkland la teinte des miroirs. À la terre se souffle pour que nous puissions voir. Nous sommes de passage, ne blessons pas le paysage. Nous sommes de passage, ne blessons pas le paysage. Nos âmes, fragiles sont les jours de matin calme. Fragiles sont nos joies, suspendues à nos larmes. Si fragile est l'amour dans nos cœurs qui s'alarment.
Nous sommes de passage, ne blessons pas le paysage. Nous sommes de passage.
Nous sommes de passage, ne blessons pas le paysage.
Cette chanson de Daniel Facerias nous amène à reparler avec André Comte-Sponville de la question du temps. En résumé, le temps, c'est de l'éternel présent. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, et nous ne vivons que au présent, quoi qu'on fasse. Cette évidence peut tout de même donner le vertige, et elle pose des problèmes considérables. André Comte-Sponville, interrogé par Philippe Malidor.
Qu'est-ce que le temps ? Saint Augustin disait, le temps, c'est la succession du passé, du présent et de l'avenir. Oui, mais, ajoutait saint Augustin tout à fait à juste titre, le passé n'est pas puisqu'il n'est plus. L'avenir n'est pas puisqu'il n'est pas encore. Donc, il ne reste que le présent. Eh bien, si le présent reste présent, c'est exactement ce qu'on appelle traditionnellement l'éternité, ce pourquoi je disais en effet que nous sommes déjà dans le royaume, ce qui veut simplement dire que l'éternité, c'est maintenant.
Mais pour parler brutalement, quand vous serez mort, que sera devenu votre éternité personnelle ? Parce que c'est curieux, une éternité qui s'achève, en fait.
Ben c'est ça. Mais ouais. Ça, c'est, je crois que c'est ça le paradoxe de l'éternité, du moins pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous savez, c'est ce que m'a rapporté un ancien élève de Yankelevitch. Un jour, Yankelevitch faisait cours à la Sorbonne, et puis il a dit à ses étudiants, parlant de lui-même, la main sur la poitrine, « Je vous présente cette chose étonnante, une vérité éternelle qui va mourir. Ouais. » Et je crois que c'est exactement ce que nous sommes. Nous sommes une vérité éternelle. Pour deux raisons. D'abord, parce que tant que nous vivons, nous ne quittons pas le présent. Et ensuite, parce que lorsque nous serons morts, éternellement, il restera vrai que nous avons vécu. Autrement dit, le petit moment de présent ou d'éternité que nous vivons ensemble. Demain, ça sera du passé. Mais demain, il restera vrai qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble. Dans 10 milliards d'années, nous serons morts depuis très très longtemps. Plus personne, bien sûr, ne se souviendra de cet entretien. Mais il restera vrai, éternellement vrai, que cet entretien a eu lieu. Si bien que je dirais que nous sommes éternels ici et maintenant, tant que nous vivons. Vous savez cette formule qu'on dit parfois de l'amour, l'amour est éternel tant qu'il dure. Eh bien je dirais la même chose de la vie. La vie est éternelle tant qu'elle dure, nous sommes éternels ici et maintenant. Quand je ne serai plus, eh bien cette éternité aura cessé. Mais il restera éternellement vrai que j'aurai vécu.
Thank you.
Sur l'homme, vous commencez votre chapitre en faisant un parallèle, par exemple, entre le dauphin et le débile profond. Et vous dites, en prenant cette comparaison, que le dauphin éventuellement peut être plus intelligent que le débile profond, mais que ni les fonctions ni les normes ne sauraient servir de critère pour définir l'homme. Autrement dit, c'est le débile profond qui reste quand même humain.
Ah, bien sûr. Alors ouais. Ça, c'est, je dirais que là-dessus, il me semble que tout le monde est d'accord, mais ça, il reste à en tirer les conséquences. Autrement dit, la question, c'est qu'est-ce qu'un homme ?
Voilà, parce que ce que vous dites intuitivement, on le ressent tous, et puis c'est une idée généreuse, mais comment la démontrer ?
Voilà, alors ça... donc, qu'est-ce qu'un homme ? Si vous répondez, par exemple, avec Aristote, l'homme est un être qui parle, qui raisonne. Ben, ça veut dire effectivement que le débile profond, qui ne parle pas, qui ne raisonne pas, n'est pas un homme. Ça veut dire que si on démontrait que le dauphin raisonne, alors ça, apparemment ça n'est pas impossible, il faudrait dire que le dauphin est un homme, ce qui bien sûr est absurde. Et on pourrait prendre toutes les catégories habituelles qui servent à répondre à la question « qu'est-ce qu'un homme ?», on va se rendre compte que ça ne marche pas. Si vous dites « l'homme est un animal politique, l'homme est un animal qui vit en société », alors l'abeille pourrait en quelque sorte être un homme et... L'enfant sauvage, par exemple, qui vit seul, qui ne fait pas de politique, ne serait pas un être humain. Bref, je crois que l'homme n'a pas de propre, comme diraient les philosophes. On ne peut pas dire l'homme, c'est un être qui fait ceci ou cela, parce qu'il y aura toujours d'autres êtres sur Terre, ou éventuellement des extraterrestres, qu'on peut imaginer, qui vont pouvoir parler, raisonner, vivre en société, et qui ne seront pas des hommes pour autant. Et inversement, il y a des êtres humains, qui ne parlent pas, qui ne raisonnent pas, qui ne font pas de politique, qui sont évidemment des êtres humains. Si bien qu'à mon sens, répondre à la question « qu'est-ce qu'un homme ?», ça n'est pas répondre par un certain nombre de caractéristiques, de fonctions ou de normes, c'est simplement prendre absolument au sérieux, au fond, la filiation. Qu'est-ce qu'un homme ? Moi, je réponds, un homme, c'est un être qui est né d'un homme et d'une femme. Et c'est dans cet engendrement, dans cette relation de filiation que l'humanité, mais comme toute espèce animale au départ, trouve sa véritable spécificité. Qu'est-ce que c'est qu'un chat ? C'est un être qui est né d'un chat et d'une chatte. Et de ce point de vue, l'humanité est une espèce animale parmi d'autres. Simplement, il se trouve que cette espèce animale, alors pour toutes sortes de raisons, les unes biologiques, spécialement le poids de son cerveau, d'autres sociales, historiques, la culture, la civilisation, l'accumulation du savoir, le développement d'un certain nombre de valeurs, de normes, etc. Cette espèce animale a donné quelque chose de tout à fait différent, qui est l'humanité au sens normatif du terme, au sens où être humain, c'est le contraire d'être inhumain. Si bien qu'au départ, il y a d'abord la relation de filiation. Est un homme tout être né de deux êtres humains ? Et sur la base de cette filiation d'abord biologique, nous avons inventé, si j'ose dire, la civilisation, la culture. Il nous reste à être fidèles à ce double patrimoine, à ce double héritage. Être fidèle à l'héritage biologique, c'est pourquoi, bien sûr, il faut refuser les manipulations génétiques qui viendraient modifier ce patrimoine génétique de l'humanité, mais être fidèle aussi à l'héritage culturel, c'est-à-dire au fond à la civilisation, et donc refuser la barbarie.
Est-ce que vous ne croyez pas que le fait de se penser soi-même, d'enterrer ses morts, d'aspirer à l'au-delà, c'est constitutif de l'homme ? Et puis là, on en revient évidemment à l'homme créé en image de Dieu.
Mais sincèrement, imaginez que nous découvrions dans nos voyages extraterrestres des martiens ou dans un autre système solaire, on les appellera comme on voudra, mais peu importe, qui enterrent leurs morts. Est-ce qu'on va dire qu'on a découvert des humains sur Mars ? Non. On va dire qu'on a découvert sur Mars des êtres doués d'intelligence, des êtres qui se posent des questions métaphysiques. Ça prouve simplement que la métaphysique n'est pas forcément réservée aux êtres humains. Et puis, à l'inverse, je vous jure bien que le débile profond, il ne va jamais enterrer ses morts. Il n'en est pas moins un être humain, évidemment, pour autant. Non, je crois sincèrement que dès qu'on essaye de caractériser l'humanité par un certain type de comportement, par une certaine fonction, par un propre, comme diraient encore les philosophes, on tombe dans une difficulté qui tient au fait que ça ne vaut pas pour tous les êtres humains et que ça peut valoir aussi bien pour des êtres vivants sur Terre ou sur une autre planète qui ne seraient pas des hommes. Encore une fois, l'humanité est d'abord une espèce biologique. À nous d'en faire autre chose qu'une simple espèce biologique, à nous d'en faire un patrimoine culturel, à nous d'en faire une civilisation.
Maintenant, nous arrivons au chapitre sur Dieu. Je vais prendre Dieu d'abord, l'athéisme ensuite. Vous écrivez « Nous ne savons pas si Dieu existe, c'est pourquoi la question se pose d'y croire ou pas ».
Oui, c'est pour ça qu'en effet, c'est une question philosophique. Autrement dit, comme je le disais au début de notre entretien, là où on peut répondre à une question en termes de savoir, ça n'est pas de la philosophie. La philosophie a cette singularité d'essayer de penser un certain nombre de problèmes là où le savoir ne répond pas. Prenons un exemple, si vous voulez. La Terre est-elle au centre de l'univers ? Ça a été un problème philosophique pendant des siècles. Si vous lisez les anciens, si vous lisez les textes du Moyen-Âge, vous découvrirez que là-dessus, les philosophes débattent, discutent. Les uns disent oui, la Terre est le centre de l'univers. D'autres disent, comme par exemple les aristotéliciens, les platoniciens, les stoïciens. D'autres, comme par exemple les épicuriens, vous disent pas du tout, l'univers est infini, donc il n'a pas de centre. Notre monde est simplement une toute petite portion de cet infini. Tant qu'on ne sait pas si la Terre est ou pas au centre de l'univers, c'est un problème philosophique. Dès lors qu'on sait, grâce au progrès des connaissances, grâce à Copernic, à Galilée, etc., et à Einstein aussi bien, que la Terre n'est pas au centre de l'univers, alors ça cesse d'être un problème philosophique.
Mais ça en pose.
Ah, ça en pose, bien sûr. La vraie question, c'est de savoir, une fois qu'on sait scientifiquement que la Terre n'est pas au centre de l'univers, la vraie question est de savoir quelles sont les conclusion qu'on en tire. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Et là, à nouveau, ce n'est pas le savoir qui répond, c'est la philosophie. Donc, une question est philosophique à condition qu'aucun savoir ne permette d'y répondre absolument. Or, la question de Dieu, de ce point de vue, est assurément philosophique, parce qu'en effet, personne ne sait, au sens fort du terme savoir, si Dieu existe ou non. Et c'est précisément parce que nous ne savons pas ce qu'il en est que la question se pose d'y croire ou pas, et c'est ce qui distingue le croyant de l'athée. Le croyant est celui qui va répondre « Je ne sais pas si Dieu existe, mais je crois qu'il existe ». L'athée est celui qui dira « Je ne sais pas si Dieu existe, mais je crois qu'il n'existe pas ». Ce sont donc deux croyances, une croyance positive et une croyance négative, si l'on peut dire, et en aucun cas un savoir.
Bien de toi,
Étonnante confession de foi de Daniel Briand sur des arrangements à la James Bond, et oui. Oui, on s'en pose des questions sur Dieu, et André Comte-Sponville n'est pas le dernier à s'en poser. Philippe Malidor poursuit son entretien avec le philosophe.
Donc il faut s'entendre sur le terme de connaissance quand on parle de Dieu. C'est-à-dire, vous envisagez d'ailleurs la connaissance de Dieu par révélation. Hein.
Oui, mais c'est une connaissance...
Pas une connaissance aux sciences scientifiques,
par définition,
sûr.
Mystérieuse, douteuse, donc en effet, qui n'est pas un savoir
relationnel,
au sens propre. Mais d'ailleurs, vous savez ce que je dis là, c'est tous les théologiens, notamment chrétiens, en seraient d'accord. Quand saint Augustin réfléchit sur la foi, par exemple, travaillant sur ce qu'on appelle aujourd'hui les trois vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité... Vous connaissez ce texte fameux de saint Paul, ce qu'on appelle l'hymne à la charité, où saint Paul écrit, donc il y a ces trois choses, comme il dit, la foi, l'espérance, la charité. La plus grande des trois, c'est la charité, écrit saint Paul, et puis il ajoute, tout le reste passera, la charité seule ne passera pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, constate saint Augustin, ça veut dire que la foi passera, que l'espérance passera. L'espérance passera parce qu'au paradis, au royaume, nous n'aurons plus rien à espérer. Et la foi passera parce que, au paradis, dans le royaume, nous n'aurons plus lieu de croire en Dieu puisque nous serons en Dieu et puisque nous saurons Dieu. Il y aura une connaissance de Dieu, nous verrons Dieu face à face. Il n'y aura plus de foi. Nous n'avons aujourd'hui à croire en Dieu du point de vue même de saint Augustin, mais saint Thomas dit la même chose et je crois que tous les théologiens en seraient d'accord. Nous n'avons à croire en Dieu que parce que nous ne savons pas s'il existe. Si bien qu'il est essentiel, me semble-t-il, à la foi, finalement, qu'elle soit sans preuve. Et c'est pourquoi, dans ce chapitre sur Dieu, là, comme il s'agissait d'un livre d'initiation à la philosophie, j'étais obligé d'essayer de faire comprendre à mes lecteurs, par exemple, ce qu'étaient les trois grandes preuves traditionnelles de l'existence de Dieu. La preuve théologique, la preuve cosmologique, la preuve physico-théologique. Mais en même temps, j'ai été obligé donc, d'abord de dire quel était le contenu... d'argumentation de ces trois preuves, entre guillemets, mais en même temps obligé de constater que ça n'était pas des preuves à la rigueur, au sens fort du terme, parce qu'encore une fois, s'il y avait vraiment des preuves, nous serions tous d'accord, ça ne serait plus une question de foi ou de non-foi, de croyance ou d'incroyance, ça serait une question de démonstration. Mais un Dieu qu'on pourrait démontrer ne serait plus un Dieu.
Il y a un moment où vous faites une sorte de confession. Vous dites que la preuve par la contingence du monde, c'est-à-dire bon, une cause qui entraîne des effets, c'est ça. Hein, vous dites « Cette preuve est à mes yeux l'argument le plus fort, le plus troublant, le seul qui parfois me fasse vaciller. »
Mais oui, parce
que... Vous trouvez ça assez courageux de votre part de le dire, parce que vous vous impliquez personnellement en disant
oui,
ça.
Oui, mais je crois que c'est vrai. C'est-à-dire que si on part des choses contingentes, comme disent les philosophes, notamment Leibniz a beaucoup travaillé sur cette preuve, mais d'autres aussi bien, vous prenez cette table, ce micro, bon, ils sont contingents, ça veut dire qu'ils pourraient ne pas exister. Pourquoi existent-ils? Parce qu'ils ont été produits, donc ils ont une cause, en l'occurrence tel ou tel être humain qui a fabriqué ce micro ou cette table. Mais si vous prenez l'arbre qui est dans la rue, si vous prenez tel ou tel rocher, ils existent aussi parce qu'ils ont des causes. Mais ces causes elles-mêmes, si elles existent, c'est qu'elles ont été causées par autre chose. Et ainsi, de cause en cause, soit on remonte à l'infini, et alors, on n'aura jamais la cause ultime, puisque à chaque pourquoi, on répond par un parce que, mais le parce que lui-même renvoie à un pourquoi. Et donc, on a le sentiment que l'être est sans raison. Ou bien, il faut s'arrêter quelque part, comme disait déjà Aristote, et considérer qu'il y a un être sans cause, parce qu'il est absolument nécessaire. Autrement dit, un être qui ne peut pas ne pas exister. Et cet être serait Dieu. Et c'est vrai qu'il m'arrive en effet de sentir la force de cet argument, de cette preuve par la contingence du monde, parce que nous avons le sentiment que l'être doit avoir une raison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prolonger indéfiniment la chaîne des pourquoi. Il faut trouver une espèce d'origine absolue, d'origine nécessaire. Alors cela dit, si cette preuve me convainquait tout à fait, je serais croyant, et ça n'est pas le cas. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne me convainc pas tout à fait ? D'abord parce que le sentiment que nous avons qu'il faudrait une cause absolue ne prouve pas que nous ayons raison. La seule chose qui pourrait nous satisfaire, ça serait en effet un être absolument nécessaire, mais pourquoi voulez-vous que l'être soit satisfaisant ? Après tout, il se pourrait qu'en effet, l'être, la matière, ait toujours existé, qu'avant le Big Bang, il y a eu autre chose, peut-être un univers en expansion qui s'est condensé au moment du Big Bang, comme certains physiciens en font l'hypothèse, peut-être tel ou tel état inconnu de la matière. Il se pourrait que l'être ait toujours existé. Et puis la deuxième chose, c'est que quand bien même on penserait qu'il y a à l'origine un être absolument nécessaire, qu'est-ce qui vous prouve que cet être soit un dieu ? Qu'est-ce qui vous prouve que cet être, autrement dit, soit une personne, un être conscient, un être intelligent, un être d'amour ? Ça pourrait être aussi bien, là encore, la matière, ça pourrait être la nature, comme disait Spinoza, c'est-à-dire un être sans conscience, sans volonté, sans amour. Si bien que d'un côté, nous ne sommes pas sûrs qu'il existe un être absolument nécessaire, et d'un autre côté, quand bien même on penserait qu'il doit exister un être absolument nécessaire pour que les êtres contingents aient leur raison d'être, cela ne prouverait pas encore que cet être nécessaire soit un dieu, ça pourrait être aussi bien la nature matérielle.